9h-11h, la tribune du dimanche sur RCI.
Bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs de RCI, nous sommes le 26 octobre, le dimanche 26 octobre 2025 et c'est l'émission numéro 8 de la saison 2 de la tribune du dimanche. Aujourd'hui, nous recevons un élu de la ville dont sont originaires la réalisatrice Eusanne Palsy, le musicien Fernand Marlu, le philosophe et essayiste René Ménil et Marie-Aline, je le rappelle, qui était la mère du célèbre poète, écrivain et ancien député Léon Gontran Damas. Élu en 2020 sur la liste Unité Gros-Mornaise, il siège encore sur cette liste de la majorité au sein du Conseil, mais a rompu les liens. Il nous dira si cette décision est irrévocable, eu égard à ses ambitions pour mars 2026. Jonathan Tabar, bonjour.
Bonjour Monsieur Dizer, bonjour à l'ensemble des auditeurs de RCI Martinique et un bonjour particulier aux Gomornaises et aux Gomornais qui nous écoutent en ce dimanche.
Merci, je rappelle que cette émission est toujours en direct, on me pose encore la question, oui notre émission est toujours en direct, au 63 12 12 vous pourrez nous joindre pour poser vos questions. Peu avant 10h vous aurez Monsieur Tabar votre premier questionnaire, oui non, joker. Le deuxième, à 10h30, ce sera le pour ou contre. Et nous allons terminer avec le dernier questionnaire, votre j'aime, j'aime pas.
Philippe Dizer sur RCI.
Je vous préviens, nous serons interrompus dans quelques minutes pour la transat, mais nous aurons le temps de faire mieux connaissance avec vous. Imaginons, Monsieur Tabar, que vous êtes invité à vous présenter devant une assemblée où personne ne vous connaît. Sur quoi insistez-vous afin que l'on sache qui vous êtes ?
D'ailleurs, ça dépend de quel type d'assemblée. Si c'est une assemblée ou c'est une population qui est devant moi, je vais commencer par me présenter. En tout cas, je suis Jonathan Tabar, âgé de 38 ans, 39 ans, en 2026 dans le cadre des élections municipales. Je suis un agent de la fonction publique, notamment de l'éducation nationale. J'habite le Gaumont. Je suis profondément attaché à cette commune et je suis surtout engagé en politique depuis plus de 21 ans maintenant. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la politique jusqu'à être élu aujourd'hui.
Où avez-vous grandi, Monsieur Tabar ?
J'ai grandi au Gaumont.
Ouais, vous le dites vite. Hein.
Oui, je le dis vite parce que j'ai grandi au Gaumont. Jusqu'à mes 11 ans au Gaumont, 4 ans à Saint-Joseph et ensuite je suis revenu au Gaumont.
C'est important quand on veut se présenter à une élection de préciser qu'on est bien originaire de la commune.
Bien sûr, parce que les gens ont souvent pour habitude de ne pas résider dans la commune, parce qu'il faut faire une différence entre le domicile et le lieu de résidence. Il y a une différence juridique à ce niveau-là. Et oui, c'est quand même important, mais il faut savoir qu'il y a très peu de maires ou de mairesses qui résident dans leur commune sont élus.
Vous avez mené votre petite enquête pour dire ça.
Bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'engager en politique sans savoir comment fonctionne le monde politique.
Quel type d'enfant étiez-vous, Monsieur Tabar ?
Ben, j'étais quand même... ça, c'est mes parents qui pourraient mieux en parler, puis mes proches, ceux qui ont grandi avec moi. Donc, j'étais un jeune plutôt quand même assez réservé, ce qui est un paradoxe par rapport à maintenant, assez introverti. Je suis l'aîné d'une famille aussi, il faut le savoir. Donc, j'étais le grand frère, donc il fallait être le modèle. J'espère l'être encore pour eux. D'ailleurs, ils me le rendent bien, d'ailleurs, mes frères et sœurs. Donc, non, j'étais quand même un garçon quand même assez sérieux, assez rigoureux, comme c'est le cas encore actuellement, je l'espère.
Quel métier vous rêviez de faire ?
Quel métier ? Pour être honnête avec vous, je voulais être pilote de ligne.
Ouais.
Pilote de ligne. Mais je vais vous faire un aveu. Les mathématiques et moi, ça fait deux. Ça fait deux. Ça fait deux, donc il faut faire des mathématiques et des physiques et de la physique pour être pilote de ligne.
Ouais. Et voilà. Ça, pour vous, il fallait y renoncer. Oui. Dites-moi, Monsieur Tabar, est-ce qu'il y a une personne, un adulte, un professeur, un ami, une personne connue ou pas, qui vous a influencé ou vous influence encore aujourd'hui ?
Un adulte, oui. Oui. Personne connue, oui. C'est un ancien député. Mais il y en a plein, il y en a tout plein. Un ancien député maire, M. Anicet Uriné, parce que lorsqu'il faisait campagne, lorsqu'il était maire, il venait souvent chez mes grands-parents faire campagne, chez mes proches en particulier. Et c'est quelqu'un qui a été très, 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 très inspirant. Ça, c'est au niveau local. Il y en a d'autres aussi que j'ai vu évoluer, qui m'ont encouragé. Je vais citer le maire de Saint-Joseph, Yann Monplaisir, par exemple, qui m'a dit très tôt, petit garçon, tu vas arrêter de porter de l'eau pour les gens, tu vas porter ton propre seau d'eau. Il me l'a dit clairement une fois, il m'a dit « tu vas te mettre en avant au lieu de rester derrière » parce qu'en fait, je suis un militant de nature. Donc le militant, il va toujours aider, il va toujours pousser les autres. Il m'a dit « non, tu as suffisamment servi maintenant, tu vas te mettre en avant ». Il fait partie de ces personnes. Et il y en a d'autres plus récemment et tout, que j'admire quand je vois leur fonctionnement. Je prends l'exemple
qui,
du maire.
Par exemple ?
Le maire de Sainte-Marie, par exemple, qui est un homme dynamique, qui est un homme motivé. Et puis il y a des femmes aussi, des femmes qui m'ont accompagné, qui ont toujours été là. Je vais citer l'ancienne présidente du comité martiniquais du tourisme, Karine Mousseau, par exemple, qui m'a toujours accompagné. D'ailleurs, j'ai été son suppléant en 2017, déjà aux élections législatives, avant d'être moi-même candidat en 2022 aux élections législatives.
Quel est, Monsieur Tabar, l'endroit ou le site que vous aimez le plus au Gros-Morne ?
Le site que je préfère le plus au Gros-Morne. Mais je vais vous dire, c'est près de chez mes parents, c'est à Rivière-les-Ardes. C'est à Rivière-les-Ardes, c'est un lieu calme, paisible, de détente, où on entend le bruit de l'eau couler, où on a grandi en fait. Hein.
Donc, quel est le site ou l'endroit que vous aimez le moins au Gros-Morne ?
Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Parce que j'ai constaté que le Gros-Morne, et c'est une commune qui est quand même en win. Je fais le tour des quartiers. Quand je traverse le Gros-Morne, j'ai quand même le cœur qui s'arrache, hein, parce qu'il y a un manque d'entretien cruel, un abandon des infrastructures. Et l'un des sites qui m'a fait le... Il y a deux sites qui m'ont fait beaucoup de peine. C'est le stade du Gros-Morne, la tribune du stade du Gros-Morne. Quand on passe, on ne voit pas, mais c'est la vue aérienne, parce que j'ai quand même pris des photos aériennes du stade. Et c'est vraiment un déchirement. Quand on regarde ce stade, c'est vraiment un déchirement. Et puis on a bien évidemment le monument qui trône au milieu du bourg du Gros-Morne, qui est l'église du Gros-Morne, qui aussi est un abandon manifeste et tout, où on se dit, on ne peut pas, on n'a pas... Comment on a pu laisser une telle structure se dégrader depuis le séisme de 2007, alors que c'est une structure qui continue à recevoir du monde jusqu'en 2015. Et la décision de ne plus abriter de culte dans l'église a été, je crois, le dernier coup de couteau qui a été donné à cette église. Parce que vous savez, lorsqu'on n'habite pas un lieu, lorsqu'il n'est pas occupé, il a tendance à se dégrader. Eh bien, c'est le cas. Des travaux qui auraient pu peut-être coûter très peu vont coûter des millions maintenant.
Monsieur Tabar, revenons en 2020. Il y a 6 listes au Gros-Morne, dont celle de Gilbert Couturier. Qu'est-ce qui vous a séduit et pourquoi vous avez fait le choix de figurer sur cette liste ? C'était en 2020.
Mais cette histoire n'a pas commencé uniquement en 2020 parce qu'il faut le rappeler au Gros-Morne, parce qu'aussi il faut faire taire un certain nombre de choses. Parce que aujourd'hui, on m'accuse de trahison. Je vous parle en toute sincérité de trahison. Je tiens à dire que je n'ai trahi personne. Je pourrais dire
qui
aujourd'hui...
Qui dit que vous trahissez, Monsieur Tabar ?
Mais certaines personnes qui sont sur la liste aujourd'hui, Unité Gros-Mornaise, disent que j'ai trahi, que je suis un traître. Moi, j'ai dit que je n'ai trahi personne. Au contraire, si quelqu'un a été trahi dans l'histoire, c'est bien moi. Parce qu'il faut savoir qu'en 2020, un peu avant 2020, je n'ai de cesse été courtisé par le maire Gilbert Couturier, le maire sortant.
C'est lui qui est venu vous trouver ?
Tout à fait.
Vous pouviez dire non ?
Je pouvais dire non, mais je vais vous expliquer, parce qu'il faut que l'on soit très clair. Il m'a courtisé, m'a fait la proposition à plusieurs reprises avec ses proverbes, parce qu'on connaît très bien ses proverbes. Je peux en reciter quelques-uns. Il me disait, Thibault, manquez-vous un zépon filé ma prochaine mandature, manquez-vous un et puis moi. Ça, c'est une réalité. Et ça, personne ne peut dire le contraire de ce que je suis en train d'apporter aujourd'hui devant vous. J'ai pris le temps de la réflexion. J'ai pris le temps de poser des questions à certaines personnes qui m'entourent encore pour savoir est-ce que c'est une bonne idée. On m'a dit, Jonathan, ça peut être l'occasion de faire tes armes vraiment auprès de ta population au Gros-Morne. Tu t'es déjà présenté aux législatives, mais maintenant il faut que ta population te connaisse vraiment au Gros-Morne. Ça peut être l'occasion. Mais moi, je ne suis pas venu juste pour me faire connaître auprès des Gros-Mornais, mais c'était pour apporter quelque chose de nouveau à la population gros-mornaise, apporter un nouveau souffle à cette population. Parce que je ne vais pas vous mentir, en 2014, lorsque Anicet Turiné était candidat, j'envisageais d'être sur sa liste, déjà. J'envisageais.
On a vérifié, vous n'y étiez pas.
Oui, tout à fait. Mais mon père y était. Mon père y était.
Le Tabar qui était, c'est donc votre père.
Non, c'était pas un Tabar. Mon père de Fort Jean-Philippe, mon père, c'est Jean-Philippe Christian.
D'accord. Donc, mais il y avait un Tabar sur la liste.
Il y avait un Tabar. Oui, il y avait un Tabar. Oui, effectivement, il y avait un Tabar.
On a vérifié.
Oui, je sais que vous vérifiez tout, monsieur Dizer. Donc, tout ça pour vous dire, je reviens à la genèse de cette histoire. J'ai été courtisé, j'ai accepté, j'ai étudié la situation, mais surtout, j'ai eu deux entretiens avec le meilleur sortant. Donc, où je lui ai exposé ma vision du Gourmande, parce qu'il me l'a demandé, quelle était ma vision. Je lui ai exposé ma vision du Gourmande, je lui ai dit ce que je voulais pour le Gourmande. Et comme je l'ai déjà dit, tout ce que je disais, c'était oui. Mais comme on a un petit proverbe créole qui dit, il n'y a pas qu'à prendre mouche et puis vinaigre, mouche en miel et puis vinaigre. Donc, bien évidemment, il fallait me dire oui. Mais je n'ai pas pris longtemps avant de me rendre compte que j'étais dans le faux. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dès 2021, lorsqu'il est parti, lui, en campagne pour la CTM, je ne l'ai pas suivi. J'ai suivi un autre candidat. Donc, je marquais déjà ma différence dès 2021.
Mais cette différence, vous la connaissiez. Vous saviez que politiquement, vous étiez sans doute, idéologiquement, pas sur la même longueur d'onde.
C'est une élection municipale. Une élection municipale, selon moi, doit comprendre toutes les composantes, toutes les tendances politiques d'une commune pour refléter au mieux le visage qu'on veut donner à cette liste. Sur une liste, dans n'importe quelle commune, vous allez voir que vous avez des candidats de toutes les tendances politiques sur une même liste municipale. C'est la seule élection, d'ailleurs, où les gens peuvent s'entendre pour un projet commun. Mais ce projet commun n'a pas été réalisé par la suite, et je l'ai très vite constaté. Donc c'est pour ça que j'ai suivi un autre candidat en 2021.
Pourtant, Jonathan Tabar, vous êtes, me semble-t-il, non seulement un conseiller municipal, mais vous êtes même adjoint au maire, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes même élu communautaire. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui fait dire à certains aujourd'hui que vous avez trahi, parce que pour une première participation, non mais je me fais l'avocat du diable,
oui, tout à fait,
je ne vis pas au Gourmande, rassurez-vous, je n'ai pris de renseignements auprès de personne, mais j'essaie d'imaginer la motivation de celles et ceux qui pensent que vous avez trahi. Vous obtenez un poste d'adjoint au maire, vous êtes élu communautaire. On peut se dire, voilà, première participation, il a décroché la timbale.
Voilà. Donc, vous allez vous corriger. Je vais corriger. Je ne suis pas adjoint au maire et je n'ai jamais
été. Oui, vous aviez une délégation.
J'avais une délégation de conseiller délégué en charge de l'éducation. Donc, je n'ai pas de poste d'adjoint. Je suis conseiller communautaire. Mais là encore, cette histoire de conseiller communautaire, il faut la comprendre. Parce qu'il faut savoir que sur la liste des conseillers communautaires, parce qu'en fait, ce même jour, il y a deux élections, une élection municipale et une élection communautaire. Et c'est pour que les Martiniquais le sachent, que les Gaumonais le sachent aussi. Il se trouve que j'étais cinquième sous la liste communautaire, plus deux suppléants, qui font 6 et 7. J'étais cinquième. L'élection, il y avait deux candidats qui postulaient au poste de présidence de Cap-Nord. On avait Bruno Nestor Azeo et Alfred Montieu. Alfred Montieu a perdu les élections. Bruno Nestor Azeo, grand homme, et je dis bien grand homme, parce qu'il faut que là aussi qu'on le sache, parce que c'était deux stratégies totalement différentes. L'élection a eu lieu le 15 juillet 2020, l'élection du président de Cap-Nord.
Tout à fait.
Le 15 juillet 2020. Le 14 juillet 2020, nous avons eu une réunion la veille, je ne sais pas si vous imaginez, une élection aussi grande que celle de Cap-Nord, les gens se réunissent la veille de l'élection pour savoir comment ça va s'organiser. Et moi, ce qui m'a fait mal ce jour-là, je vais vous dire pourquoi. Les personnes qui étaient instigatrices de cette réunion avaient décidé que s'ils gagnaient, il n'y avait que les personnes qui sont avec eux dès le départ qui siégeraient au bureau communautaire. Le bureau communautaire, c'est l'instance décisionnelle de Cap-Nord où ne siègent que les représentants des villes. Donc, ça veut dire que un maire, par exemple, je prends son cas. Ça veut dire que vu qu'il était candidat pour la présidence de Cap-Nord, ça veut dire que si c'était Alfred Montieu qui aurait gagné les élections, le maire de Sainte-Marie ne serait pas président à Cap-Nord. Moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Et en face, on avait une liste qui était celle de Bruno Nestor Azeo qui a réparti l'ensemble des postes à tous les représentants des communes parce qu'il a voulu dès le départ que toutes les communes soient représentées au sein du bureau communautaire pour qu'il y ait une voix. Et je vais finir sur ce point, pour qu'il y ait une voix. Et ça, c'est, il faut être intelligent pour donner la parole à toutes les communes, alors qu'on peut avoir le pouvoir de décider, je fais avec mon petit groupe. Non. Eh bien voilà, c'est ça une différence. Et c'est pour ça que j'ai été élu conseiller communautaire, parce que lorsque Bruno Nestor Azeo a proposé à tous les maires un poste, le maire sortant du Gourmande a refusé. Il a refusé et il a dit je propose Jonathan Tabar. Mais il faut savoir que j'étais le dernier sur la liste. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé.
C'est pas vous qui avez demandé à
Je n'ai pas demandé. Je ne savais pas parce que j'étais le dernier placé sur la liste. J'étais le dernier placé. Peut-être le dernier placé sur la liste, mais peut-être le mieux placé politiquement pour représenter la ville du Gaumont.
La tribune du dimanche, Philippe Dizer sur RCI.
Notre invité de ce dimanche est Jonathan Tabar, conseiller municipal du Gaumont et élu communautaire. Allons ensuite en 2022. Vous vous présentez aux élections législatives et vous finissez devant Giovanni William, devant Philippe Edmond Mariette, qui vont disputer le second tour. Je parle au Gros Morne. Résultat, au Gros Morne. Jonathan Tabar est un jeune homme pressé.
Je ne suis pas un homme pressé.
Vous avez le droit d'être ambitieux, Monsieur Tabar.
Je suis ambitieux pour ma commune, ça c'est clair et certain. Je suis ambitieux pour la Martinique, ça c'est une certitude, parce que j'en ai marre de voir cette commune et cette ville et ce pays à la ramasse. J'en ai marre de voir qu'autour de nous, que tout se développe et que le gros monde traîne. Donc un homme pressé, non, mais ambitieux pour ma commune, ambitieux pour ma population, oui, je l'assume pleinement.
Pourquoi vous n'êtes pas revenu en 2024? Parce que votre projet municipal était déjà en gestation?
Ça n'avait pas d'intérêt.
En 2024, je le rappelle, il y a eu une dissolution. Et vous pouviez vous représenter à nouveau, vous ne l'avez pas fait.
J'aurais pu, mais l'intelligence fait qu'il faut savoir faire, prendre des choix.
Alors, c'était quoi cette intelligence qui vous a amené à faire un choix?
C'était de ne pas aller à cette élection.
Pourquoi?
Et de soutenir un candidat qui était quand même mieux placé.
Lequel?
C'était Alain Claude Lagier. C'était Alain Claude Lagier sur la circonscription. Ouais. Et qui avait sa suppléante Karine Mousseau. Donc, il était plus logique pour moi de soutenir ces personnes qui étaient beaucoup mieux placées et qui seraient beaucoup mieux placées que moi. Et d'ailleurs, ils ont fait un score remarquable.
Pourtant, vous avez fait 349 voix au premier tour. Alain-Claude Lagier, 24 au Gros Morne. Vous étiez donc un meilleur ticket sur le Gros Morne.
Nous avons discuté, Alain-Claude Lagier et moi. Nous avons discuté.
Vous étiez un meilleur ticket sur le Gros Morne. C'est ça qui vous a donné des ambitions municipales?
Pas du tout, pas du tout. Les ambitions, elles sont là pour ma commune. Comme je vous ai dit, j'observe, je constate, je circule.
Mais ça ne peut pas vous avoir laissé indifférent, Monsieur Tabar. Vous finissez, je le rappelle, avant le député sortant, c'est-à-dire Giovanni William. Au Gros Morne, il fait 135 voix. Il finit en quatrième position au premier tour. Et vous, vous virez en tête. Ça ne peut pas ne pas vous donner des idées pour la suite.
Des idées, mais je vais vous dire quelque chose encore mieux par rapport à ce que vous venez de dire. Parce qu'il faut savoir qu'on avait le maire Gilbert Couturier qui soutenait Philippe Edmond Mariette. Et il y avait tout le staff du MIM et du CAPE qui faisait campagne sur le Gaumont. Mais les Gaumontais ont fait le choix, ont déjà commencé à faire un choix, de faire le choix d'une autre voie, c'est-à-dire celle de Jonathan Tabar. Ce résultat ne
Il vous a satisfait ce résultat, mais il vous a satisfait.
C'est un résultat qui est satisfaisant. Lorsqu'on voit qu'on a un maire en place et qu'on a une population qui ne suit pas ce maire, même si c'est une élection législative, il faut quand même se poser des questions. Cela veut dire que les Gaumontais sont en train de changer de regard sur ce qui se passe et d'ouvrir les yeux. Et j'espère qu'ils vont continuer à encore ouvrir les yeux en 2026.
Nous avons Frédéric au téléphone qui a une question concernant le sport. Frédéric, bonjour, vous êtes en direct sur RCI.
Bonjour, M. Bizet, bonjour à votre invité, bonjour à tous celles et ceux qui nous écoutent.
Bonjour.
Alors, M. Tabar, qu'envisagez-vous pour le sport globalement au Gaumont et plus singulièrement l'athlétisme? Vous permettez que j'en ajoute une sur l'agriculture?
Allez-y.
Est-ce que vous avez des idées, M. Tabar, pour redynamiser l'agriculture vivrière au Gaumont?
Merci Frédéric. Restez à l'écoute de RCI pour écouter les réponses de M. Tabar. Allez-y, M. Tabar.
Donc, bonjour Frédéric. Merci pour les questions, en fait. Pour le sport, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le tour depuis plusieurs années et plus récemment encore des infrastructures sportives. Il faudra rénover l'ensemble des infrastructures sportives. Et avec mon équipe, nous avons travaillé sur un projet qui sera présenté à la population en début d'année 2026, dans le cadre des élections municipales. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il faut arrêter avec cette connerie, parce que pour moi, c'est une connerie.
Vous y allez franco.
Non, c'est une réalité, parce qu'il y a d'autres communes qui n'avaient pas d'argent, mais elles ont réussi à trouver les fonds. Parce qu'il faut avoir des projets structurés. Les projets au Gaumont ne sont pas structurés. Je vais vous donner un exemple simple. Quand je regarde le stade de Rivière-les-Ardes, qui est dans mon quartier, qui a été
rénové,
mais qui n'est toujours pas en utilisation, ça va faire deux ans en février. Deux ans Pourquoi ? On n'est pas capable de nous apporter une réponse pour ce stade. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, on a l'herbe qui fait l'herbe qui monte jusqu'à 2 mètres des fois. On a les herbes piquantes qui montent sous ce terrain-là. Dernièrement, c'est des jeunes du RSMA, une centaine de jeunes du RSMA qui sont venus couper l'herbe sur ce terrain-là. Et les arbustes, parce que là, ce n'est plus de l'herbe, hein, c'est des arbustes qu'il y avait. Donc là, il y a quelque chose à faire, vraiment. Donc, c'est pour vous montrer comment les projets ne sont pas structurés. Le stade du Gaumont, quand je suis arrivé en 2020, j'ai dit, lors d'un conseil municipal, en 2021, que ça fait un an que je suis là, ça fait 3 plans de financement que je vois passer. Je l'ai dit en conseil municipal. Comment on ne peut pas avoir des plans de financement stabilisés? On nous avait dit, pendant la campagne de 2020, que l'argent était là, que les fonds étaient là. 2,5 millions en moyenne pour le stade du Gaumont avec une piste, et tout, etc. Nous sommes 5 ans plus tard, 5 ans et demi plus tard, il n'y a pas une amorce de travaux sous le stade. Nous allons mettre des personnes, des cabinets spécialisés dans la recherche de financement pour pouvoir trouver les fonds qui existent. Par rapport aux Jeux Olympiques, il y avait un certain nombre de fonds qui avaient été mis en place par l'État. La ville du Gaumont n'a pas été capable de soutirer un seul centime. Et ça, il faut le dire à la population. Et là, on va nous faire miroiter, on va repartir, ils vont repartir en campagne avec les mêmes projets qu'ils avaient en 2020. Et ce sont les mêmes projets qui ne vont pas se réaliser. Juste une petite information, je tiens à préciser que ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans que le maire sortant est en place. 12 ans, 2 mandatures. Beaucoup de personnes pensent que ça fait une mandature. Cette mandature devait être la mandature de réalisation. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire à la population en 2020 lorsque nous étions en campagne. J'étais avec eux, j'étais là-dedans, donc je peux en parler et je pense être le mieux à pouvoir en parler. Mais moi, je dis à la population, je prends mes responsabilités, nous vous avons menti. Parce que je ne vais pas nier que j'ai été élu sous cette liste. Nous avons menti à la population. Et je pense que ce mensonge va repartir encore de plus belle avec ces personnes. Mais sauf que cette fois, je ne serai pas avec eux. Je prends mes responsabilités et je serai candidat en 2026.
Sur l'agriculture, avant que nous prenions la question de Richard, à qui je demande de patienter. Sur l'agriculture, comment faire repartir l'agriculture vivrière au Gaumont?
Il faut savoir que le Gaumont a été le grenier de la Martinique, tout comme le Nord. Il faut savoir aussi que je suis président de la commission agricole de Cap-Nord, en charge de l'agriculture. Nous mettons tout en œuvre, notamment le désenclavement des terres. C'est un dossier que j'ai repris lorsque je suis arrivé en 2020. Tout a été préparé, nous avons pris un cabinet d'études, le montage est déjà fait, il nous reste qu'à trouver maintenant les financements pour pouvoir désenclaver les parcelles agricoles dans les 18 communes du Nord. Là, ce n'est pas seulement le Gaumont, c'est les 18 communes du Nord.
Là, vous mais parlez au titre de Cap-Nord.
Voilà, exactement. Mais en tant que futur maire du Gaumont, je peux vous assurer que le Gaumont en profitera. Parce que j'ai eu l'occasion de dire à de nombreuses reprises, comment se fait-il que je suis président de la commission agricole. Lorsqu'il fallait faire remonter les dossiers de la ville du Gaumont pour le cabinet d'études, le Gaumont était la dernière commune, alors qu'on a des gens soi-disant qui veulent défendre l'agriculture au plus haut sommet au Gaumont. Et je n'ai de cesse de rappeler l'équipe, monsieur le maire, les élus en charge de l'agriculture, qu'il faut faire remonter, qu'il n'est pas normal que je représente cette commune et que ma commune soit la dernière à transmettre les dossiers. Ça, c'est une réalité. Et j'ai tous les éléments qui peuvent le prouver. Les relances, parce qu'il faut aller là-dessus, les relances des cabinets, tous ces documents, j'ai toute la traçabilité par mail. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui à l'antenne est vérifiable.
Merci, M. Tabar. Nous allons prendre les appels de Richard concernant le financement des projets et de Joël qui pointe le nombre de candidats. Richard, vous êtes en direct sur RCI.
Bonjour, M. Guitter, bonjour, M. Tabar, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
M. Tabar, à l'approche des élections, tout le monde est candidat, tout le monde présente des projets. Ce qui m'inquiète dans tout cela, c'est qu'arriver à la responsabilité, vous ne savez pas ce qui sera dans la caisse, ce qui restera dans la caisse. Et vous dites que vous allez prendre le cabinet pour aller chercher des fonds. Mais ce qui est le plus dur, c'est la participation de la ville. C'est la ville, parce que nos projets sont souvent bloqués, parce que la ville ne peut pas financer ça son compte-part. Et c'est ça qui pose problème. Alors je dis qu'il faut chiffrer les projets. On nous parle, on va faire ceci, on va faire cela, il faut chiffrer. Et puis les difficultés qu'on rencontre. Deuxièmement, la santé. Allez-vous soutenir l'hôpital de Trinité, puisque c'est un hôpital qui nous dépanne, entre guillemets. Parce que souvent, on pense que c'est à la ville de Trinité seulement. Or, il faut se mettre tous ensemble pour garder cet hôpital qui rend service à la population martiniquaise, au nord de la Martinique, mais aussi.
Merci Richard, restez à l'écoute de RCI. Joël, vous voulez évoquer le nombre de candidats?
Oui, bonjour.
On vous écoute, alors, allez-y.
Oui, je vous l'ai dit, le diagnostic de M. Tabar est implacable sur la situation du Beaumont, ce que vivent les habitants du Beaumont. Mais je voulais dire à M. Tabar, est-ce qu'il peut pas se mettre à disposition de notre candidat? Il y a déjà M. Couturier, il y a Mme Baudol. Il y aura M. Tabar, il y aura M. Marie Calix et j'en passe. Donc, est-ce qu'il pourra se jouer collectivement pour opérer un changement sur la commune?
Merci Joël. Nous allons prendre la question de Marianne avant que M. Tabar ne réponde à toutes ces questions. Marianne, vous êtes en direct ou vous êtes en direct sur RCI?
Oui, bonjour. Je voulais revenir sur cette émission et demander à M. Tabar comment ça se fait qu'une commune comme la commune du Gourmonde, il n'y a pas un endroit pour faire un funérarium ou je ne sais pas comment ils veulent appeler ça, si c'est mausolée ou je ne sais pas trop quoi.
Vous parlez pour les veillées, c'est ça?
Depuis, la commune du Gourmonde n'a pas de mausolée, on est obligé d'emmener les gens à Saint-Joseph. Oh, alors je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas possible, quoi. Parce que de toute façon, dans une commune, il peut y avoir un endroit où on peut sauver les gens. Alors si monsieur, comment s'appelle-t-il, qui fait le... Enfin, j'ai oublié son nom. Mais s'il n'était pas là, comment on aurait fait? On aurait mis les gens en terre sans leur donner un mausolée pour se réunir?
Merci.
C'est ça que je veux savoir.
Merci, Marianne. Restez à l'écoute de RCI. Monsieur Tabar, reprenons d'abord sur le financement des projets et la part nécessaire que les communes n'ont pas toujours.
Oui, je vais vous apprendre quelque chose. Merci à Joël, Marianne et l'autre personne.
Richard.
Il faut savoir qu'il y a des projets qui s'autofinancent à 100%. À 100%, ça existe. Mais il faut avoir l'ingénierie financière pour cela. Et c'est pour ça que beaucoup de communes le font, mettre en place des cabinets en interne. J'ai peut-être fait, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la possibilité en interne d'avoir un cabinet, des personnes qui sont là pour aller chercher ces fonds. C'est possible. Donc, et aussi, une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la ville a la possibilité de faire des emprunts. Ces emprunts peuvent être la part de la ville. Et pour tout vous dire, cette année, la ville a fait un emprunt de 3 millions d'euros.
Je vais devoir vous interrompre, Monsieur Tabar, car nous sommes en direct avec Christian Boutrin de la Transat.
Oui, bonjour.
Bonjour, Christian.
Nous sommes effectivement dans le processus de départ de la classe 40, classe au sein de laquelle, eh bien, vous savez, il y a le double martiniquais Jean-Yves Aglaé et Mourane Mangatal de Martinique Horizon. Nous sommes dans cette classe. Je peux vous dire que le vent s'est levé, mais ils vont bénéficier tout au long de ce parcours de décalage plus à l'ouest que les autres classes qui sont parties. Je veux nommer Océane, ici c'était hier après-midi, des Imoca qui sont partis et surtout des Fous de la Mer. Ce sont les géants, ce sont les bolides, ce sont les quatre ultimes qui sont partis déjà depuis bien une douzaine de minutes. Ils vont bénéficier justement, je vous le disais, eh bien de cette trajectoire, une trajectoire qui sera plus à l'ouest que les autres classes, ce qui va permettre justement aux 74 classes 40 engagés ce matin, d'avoir un jeu qui soit plus ouvert à condition que l'anticyclone des Açores, de trouver le bon passage après avoir laissé l'archipel qui se trouve à Tribord. Alors, il faut trouver au sein de ces 74 bateaux, à quelques minutes, nous sommes pratiquement à 35, nous sommes à moins de 5 minutes de ce départ, 5 minutes, 9 secondes exactement, il faut trouver la bonne amure pour ne pas se gêner. 74 bateaux sur une ligne de départ, eh bien c'est extrêmement difficile. Et puis, il faut noter pour cette édition 2025 de la Capellan, plus de féminines, 5 duos féminins. On voit de plus en plus de projets compétitifs chez les femmes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup aussi de bonnes navigatrices. Et cette nouvelle édition de la Transat Capello prouve à nouveau que les navigatrices ont fait leur place dans la discipline. Elles sont 18 au départ et présentes dans 3 catégories. La Transat Capello Normandie démontre aussi dans toutes ses classes à quel point les skippers, d'une manière générale, Philippe, s'affirment toujours au plus haut niveau. Elles sont nombreuses à pouvoir viser une place d'honneur à Fort-de-France et parmi elles, Elodie Banouchou qui nous propose, je vous propose d'écouter sa réaction, elle est dans Initiative Cœur.
18 femmes au départ, je crois que c'est un record, c'est sympa, mais je trouve que c'est aussi sympa de voir qu'il y a des nouveaux projets, même en classe 40, des duos féminins qui se lancent, au-delà d'avoir des beaux projets féminins, par exemple en IMOCA, qu'il y avait déjà sur les dernières éditions, on voit même en Ocean 50, pas mal de filles qui arrivent sur la classe, donc ça prend sa place un peu partout, à tout niveau et dans toutes les classes. Ouais. Deuxième Transat, moi, et ma première Transat Café Laure, il y a du beau monde, du beau niveau, des beaux bateaux, il y a du challenge, moi je suis bien accompagnée avec Yann Eliès, donc on y va à fond pour se faire plaisir et pour le jeu aussi, pour la stratégie et pour la notion de performance. Et surtout une course de partage avec beaucoup, beaucoup de grands marins et un beau spectacle. Et une belle arrivée aux Antilles.
Voilà, c'est ce que nous souhaitons, mais il a fallu trouver les bons réglages. Et cet équipage a eu quelques difficultés et a été quelque peu mis à contribution au niveau du départ. Et du côté martiniquais, direz-vous, eh bien, il y a eu beaucoup d'émotions ce matin, d'abord au moment de quitter le port, Paul Vatine, pour rejoindre cette ligne d'arrivée. Il y avait la famille, il y avait les différents partenaires qui étaient là pour les encourager, beaucoup de larmes aussi. Ils ont quitté ce port ce matin en 34e position avec un soleil, mais depuis, Philippe, eh bien, la pluie est revenue, le vent s'est soulevé, Jean-Yves Aglaé et Mouran Mangatal, unis dans l'effort pour faire aussi bien qu'ils avaient fait cet en 2023, écouter ce duo juste avant le départ.
On a bien dormi, on a fait le briefing de départ ce matin.
Du coup, on a vraiment hâte d'être à ce moment. Mais en même temps, on a envie de profiter des dernières heures avec la famille. Et puis, même aussi avec nos sponsors qui nous suivent et qui nous soutiennent énormément.
Toujours en forme, vous savez. Moi, j'aime ces conditions-là, j'aime la compétition. Et dès qu'on parle de compétition, ben, je ne peux qu'avoir le moral.
Voilà, le moral y est. Donc, le départ, c'est dans 2 minutes, le temps que vous reprenez en studio, car on va terminer la procédure de départ. Tout le monde va s'aligner sur ce départ. Ça sera le dernier de cette édition 2025. On se retrouve dans 2 minutes exactement.
À tout à l'heure, Christian. N'hésitez pas à revenir vers nous pour ce départ.
La tribune du dimanche, Philippe Dizer.
Jonathan Tabar, vous répondiez sur le financement et la part des communes et vous disiez qu'il y a des projets qui sont finançables à quasiment 100% et que peut-être vous vous étiez mépris sur les cabinets, c'est ça ?
Et pour dire que les cabinets sont là pour cela, pour chercher des financements. Ça, c'est sûr, on peut faire appel à eux. Ça peut être des prestataires, mais il faut mettre en place l'ingénierie financière au sein de la ville aussi. Et c'est ce qui nous manque au sein de la municipalité du Gaumont. Et je tiens à rappeler que la ville du Gaumont a fait un prêt de 3 millions cette année. Moi, j'ai voté contre ce prêt de 3 millions d'euros parce qu'un prêt de 3 millions d'euros pour une ville où il y a tout à faire, moi, je trouve ça inadmissible. Moi, je pense que la ville aurait pu aller vers un prêt qui va jusqu'à... Vu l'ampleur des chantiers, la ville devait faire un prêt qui va jusqu'à au moins 15 millions d'euros.
Mais est-ce que c'était possible, M. Tabar?
C'était possible.
Vous savez très bien que ceux qui prêtent font très attention aux finances des communes, à l'état des finances des communes.
Il y a de nombreux partenaires qui sont derrière. Il y a la Caisse des dépôts, il y a la FD, il y a les banques. Et là encore, je vais le redire, par rapport à ce qui a été dit en 2020, parce qu'il faut souvent revenir sur le passé pour pouvoir mieux aller dans le présent. Parce qu'en 2020, on n'a pas arrêté de dire à la population que toutes les banques nous couraient après, toutes les banques et tout, et que l'État nous félicitait, que l'AFD, que tout le monde nous félicitait pour la gestion financière qu'il y avait soi-disant au monde. Et pourquoi on va sur seulement 3 millions d'euros si tout le monde est prêt à nous soutenir? 3 millions d'euros, c'est ce qu'un particulier peut faire.
Oui.
C'est ce qu'un particulier peut faire. Donc, est-ce que c'est de l'ambition de solliciter un prêt uniquement de 3 millions d'euros pour la ville du Gros-Bronx?
On va devoir vous interrompre. Je suis vraiment désolé, M. Tabar. Nous repartons. Oui, ben oui, ça arrive. Nous repartons avec Christian Boutrin. Christian, on vous écoute.
Allez, nous repartons avec le départ. Nous sommes à 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. C'est parti pour les 74 bateaux de la classe 40 qui vont prendre la direction de la Manche avec un vent soutenu, des clapots et surtout, il fait extrêmement frisquet ici. Et pour terminer, je vais vous rappeler l'ordre d'arrivée à Fort-de-France car tout le monde est parti pour la direction Fort-de-France. À Fort-de-France, la victoire était revenue en ultime à Armel Leclerc et Sébastien Jost en 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes. C'était là la victoire de la catégorie ultime en Ocean 50, victoire de Thibaut Vachel Camus et Quentin Vlamic en 11 jours, 11 heures, 22 minutes et 27 secondes exactement. En Imoca, Thomas Rayan et Nicolas Andrieux en 18 jours, 12 heures et 21 minutes et 50 secondes. Classe 40, vous aviez Angle Vaubrio, Barrio et Nicolas Andrieux en 18 jours, 12h21 minutes. Et l'équipage martiniquais Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie Lépoque étaient arrivés après 28 jours, 1h et 28 minutes en mer. Voilà, c'est fini ici au Havre pour le départ de la Transat Café Lor. On se retrouve à l'arrivée à Fort-de-France avec les premiers bateaux.
Philippe Dizer sur RCI.
Merci, merci. Nous sommes de retour dans cette émission avec Monsieur Jonathan Tabar, conseiller municipal du Gros-Morne et élu communautaire. Finissez votre réponse sur la question des financements et vous disiez que les banques en 2020, c'est ce que vous avez tenu comme discours, étaient prêtes à soutenir le Gros-Morne.
Exactement, parce que c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire pendant la campagne de 2020. Donc, si les banques sont si prêtes que ça, l'AFD, tous les partenaires de l'État sont prêts, pourquoi on va à 3 millions d'euros? Pourquoi on va à 3 millions d'euros? 3 millions d'euros, c'est ce qu'un particulier peut faire pour un projet privé. Donc une ville se met au niveau d'un particulier. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ambition pour la commune lorsqu'on s'arrête à un prêt de 3 millions d'euros.
Qu'est-ce que vous répondez à Joël qui évoque le fait qu'il y ait trop de candidats au Gros-Morne et que vous pourriez vous ranger derrière un autre candidat?
Je vais répondre très clairement à Joël. Joël, je ne sais pas si tu suis l'actualité politique au Gros-Morne, mais il est hors de question pour moi que je sois à nouveau sous la liste de Gilbert Routuyer et que je me range derrière un autre candidat. Tu as cité quelques-uns. Il y a Madame Bardol et Monsieur Marie Calix. Monsieur Marie Calix, je le connais très bien. D'ailleurs, nous sommes nés à la même date et nous avons une certaine affinité. Et c'est quelqu'un de respectueux. Il reste Madame Tali Bardol. Je vous dis quelque chose, Joël. Je suis en toute transparence avec la population gomornaise. Nous avons échangé, Madame Tali Bardol et moi, en janvier 2024, nous avons échangé pour voir quelles pourraient être nos affinités, comment pourrions-nous nous entendre. Il faut le dire à la population, l'échange n'a pas été concluant parce que Madame Tali Bardol, qui je le rappelle est arrivée en Martinique en 2017, a souhaité, a exigé même que je soit derrière elle. Mais moi, je vais vous dire quelque chose en toute transparence, là encore, c'est que moi, je ne travaille pas avec des fantômes et je ne travaille pas avec des personnes fantoches. Pourquoi? Et je vais m'expliquer. Madame Tali Bardol est conseillère exécutive à la CTM. Elle a un gros portefeuille à la CTM. Elle est conseillère municipale au Gros-Morne. J'invite toute la population du Gros-Morne à demander les PV de tous les conseils municipaux qui ont eu lieu depuis 2020. Et la population verra que sur la entre 25 et 30 conseils municipaux que nous avons eus au Gros-Morne, elle a été présente qu'à peine 5 fois. 5 fois sur une trentaine de conseils municipaux.
Vous assumez vos propos?
J'assume mes propos clairement. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le lui dire à Mme Tali Bardol et aussi à M. Thierry Messan, qui sont les deux conseillers, qui font partie des conseillers d'opposition, de la minorité. J'ai eu l'occasion de leur dire que je ne peux pas jouer le rôle de la minorité à votre place, que vous devez être présent. Il faut être présent dans les conseils municipaux. Eh bien, ces personnes viennent une fois l'an, notamment au moment du budget, par exemple. Et après, ils disparaissent. Donc, comment je peux me ranger derrière des personnes qui sont fantômes et fantoches? Et pourquoi je parle de personnes fantoches aussi au Gaumont? C'est parce que le Gaumont, ce n'est pas une terre où d'autres ont échoué. Où d'autres ont échoué et viennent conquérir. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de ma pensée. Parce que Mme Dali Bardol, elle peut dire ce qu'elle veut, même si elle dit qu'elle n'est pas inféodée au PPM, c'est une envoyée du PPM. Le PPM a échoué en Martinique. Donc, je ne vais pas laisser le PPM venir s'installer au Gaumont. Elle est la digne représentante.
Vous disiez tout à l'heure que vous seriez que dans les municipalités, on est ouvert à toutes les tendances. Manifestement, le PPM, pour vous, ça sera non sur votre liste?
En tant que leader, on ne peut pas...
Acceptez tout le monde sauf le PPM, c'est ça que vous dites ce matin?
Je vais vous dire quelque chose.
Non, mais est-ce que c'est ça que vous
tout
dites?
Tout le monde, s'il y a quelqu'un du PPM qui est modéré, qui a l'ambition de travailler au sein d'une équipe, oui. Mais il parlait de candidat, me ranger derrière un candidat. Je ne peux pas me ranger derrière quelqu'un du PPM. Ça, c'est impossible, et encore moins derrière quelqu'un de PIA.
Nous allons répondre tout à l'heure concernant les veillées, mais le oui-non joker. Ah, nous avons un petit souci technique. Je propose à Olivier qu'on commence directement. Monsieur Tabar, 10 questions, vous répondez par oui, non, joker. Si vous étiez maire du Gaumont, auriez-vous fait le choix de la démolition, reconstruction de l'église sur l'actuel site? Si vous étiez maire du Gaumont, auriez-vous fait le choix de la démolition, reconstruction de l'église sur son site actuel?
Si ça coûte moins cher, oui.
C'est oui, non, joker. Êtes-vous favorable à la construction d'immeubles HLM supplémentaires au Gaumont?
Oui.
Pensez-vous, comme l'a dit lui-même Nicolas Sarkozy, que sa condamnation à de la prison ferme est une injustice et un scandale?
Oui.
Échangez-vous avec Audrey Tali Bardol au sujet des élections municipales de mars 2026?
Plus maintenant, non.
Êtes-vous, comme le maire du Gaumont, un patriote adhérent à la philosophie du Grand Semblé pour Martinique?
Non.
Affirmez-vous encore que le Gaumont a voté depuis 2020 des budgets qui n'étaient pas sincères?
Oui.
Pourriez-vous fusionner votre liste avec une autre au second tour de 2026 si le maire sortant présente une liste et que celle-ci est aussi qualifiée pour le second tour?
Non.
Avez-vous approuvé l'effacement du nom de Victor Schellcher pour la rue devant la mairie au profit de celui du docteur Yviane Serraline? Avez-vous approuvé l'effacement du nom de Victor Schellcher pour la rue devant la mairie au profit de celui du docteur Yviane Serraline?
J'ai très bien compris la question, mais je vais répondre par oui, parce que c'était un ensemble de noms.
Monsieur Tabar, c'est oui, non, joker.
Oui, c'est un ensemble de noms.
Êtes-vous en bon terme avec les dirigeants actuels du réveil sportif du Gaumont? Êtes-vous
oui,
en
oui.
bon terme?
Oui.
Avez-vous personnellement informé Bruno Nestor Azero, votre président à Cap-Nord, de votre souhait de briguer le mandat de maire du Gaumont en 2026?
Oui.
Philippe Dizer sur RCI.
Retour sur RCI avec M. Jonathan Tabar, l'invité de la Tribune du Dimanche, deuxième partie. Il est conseiller municipal du Gaumont et élu communautaire de Cap-Nord. M. Tabar, faisons une réponse à Marianne qui vous avait interrogé sur l'absence de lieu pour les veillées au Gaumont.
Oui, Marianne, merci pour la question. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier parce que le Gaumont, c'est le constat général. En fait, on a une commune qui est en déclin. Et c'est à tous les niveaux, même au niveau de la mort, la commune est en déclin. Il suffit de regarder l'état du cimetière du Gaumont. Mais concernant les veillées, l'un des deux cimetières, parce qu'il y en a deux au Gaumont. Concernant les veillées, c'est une réflexion sur laquelle mon équipe et moi travaillons. Mais je pense qu'à ce niveau, il faudra amplifier le partenariat public-privé. Parce que nous avons déjà un prestataire sur la ville qui a entrepris des travaux pour un nouveau lieu. Donc je pense qu'il faudrait que la ville, sous le plan administratif, juridique, renforce son accompagnement auprès de ce prestataire. Donc parce que construire un nouvel espace serait mettre une charge supplémentaire pour la ville. Alors que moi je suis favorable à la défense du partenariat public-privé. Et concernant, parce qu'on parle de la mort, c'est vrai qu'il y a les funérailles et tout, mais l'issue, c'est le cimetière ou l'incinérateur. Et je ne sais pas si vous avez fait un tour dans le nouveau cimetière paysager, le cimetière paysager, pour voir l'état dans lequel se trouve ce cimetière, qui a été dégradé encore par de mauvaises décisions politiques. Je vous invite à aller faire un tour. Mais nous, dans mon équipe, nous proposons l'optimisation des espaces, c'est-à-dire des caveaux. Il y en a quelques-uns déjà au Gaumont. Il faudra amplifier les caveaux tiroirs, augmenter le nombre de manière considérable parce qu'il y a l'espace pour pouvoir le faire au Gaumont. Ça fait partie des projets que nous développons, sur lesquels nous travaillons avec mon équipe.
Merci. Nous allons prendre Jean-Pierre. Jean-Pierre qui patiente. Nous vous remercions d'avoir attendu Jean-Pierre. Vous êtes en direct sur RCI. On vous écoute.
Allô?
Oui, Jean-Pierre, c'est à vous.
Ah, c'est moi. C'est bien Jean-Pierre. OK. Eh bien, bravo RCI. Et qui me soit permis de vous féliciter, la direction et le personnel professionnel et amateur, pour nous donner la parole sans faux semblant. Monsieur Dizier, particulièrement vous, j'aime votre manière de titiller les hommes politiques. Bravo également à vous.
Merci.
Ma question pour ce jeune politicien, pour lequel j'ai un grand respect, comme j'ai un grand respect pour tous les politiciens de la Martinique et de la France hexagonale ou du continent européen, comme les anciens disaient. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en 1700 ou en 1800. Et vous venez de donner l'exemple, l'illustration que la Martinique est en train de rentrer dans la modernité avec la course qu'on fait entre Le Havre et Fort-de-France. Et ils vont arriver là, moins de 14 jours, moins de 15 jours. Christophe Colomb, qui se disait grand navigateur, s'est trompé. Et il prenait plus de 3 mois. Mais revenons à l'essentiel. Il faut que nous soyons un peu responsables. J'ai près de 80 ans. Je pense qu'il faut... Nous sommes en 2025. Et je dis bon courage à tous les politiciens de tout âge qui ont le courage, et les présidents d'association qui ont le courage de rentrer dans la politique sociale, économique, quoi que ce soit. Ce que je dis à ce jeune homme, il ne faut pas qu'il fasse, parce qu'il s'y connaît un peu en nouvelle technologie, qu'il pense que c'est aussi facile que ça. Et il faut aussi qu'il soit cohérent avec sa démarche. Il faut qu'on puisse écouter l'un l'autre et ne pas dire que je ne veux pas travailler sur quoi que ce soit ou pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que essayons d'être responsables pour écouter la Martinique dans toute sa globalité.
Merci.
Moi, mon questionnement à ce jeune...
Oui, allez-y.
Il vient de parler de cimetière. Il faut en parler. Mais je pense que la priorité maintenant, c'est quoi faire avec ce fléau que nous avons, le vieillissement de la population, où ma grand-mère, qui avant pouvait marcher et faire et son sport et manger 3 fruits et légumes, ne peut plus le faire. Parce que dans tous les quartiers maintenant, on veut... urbanisation à outrance, on fait des grandes routes et regardez le nombre d'accidents qu'il y a parce qu'on a supprimé les épiceries de proximité.
Merci Jean-Pierre. Merci.
Donc, je l'écoute sur
Merci.
Ça.
Okay.
Parce que je pense qu'il faut bien qu'il soit aussi, qu'il ne tombe pas dans le jeu des anciens de critiquer les autres.
Merci.
Et je dis encore bravo à tous les politiciens
Merci.
Parce que depuis la décentralisation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Restez à l'écoute de RCI. Monsieur Tabar vous répond.
Oui, merci Jean-Pierre pour ta question. Tu dis que je suis jeune. Effectivement, j'ai 38 ans. J'aurai 39 ans au moment des élections municipales. Et je tiens à rappeler que si on fait le calcul, à partir d'aujourd'hui, ou en 2026, dans 11 ou 12 ans, j'aurai 50 ans. Donc, je suis plus près de la cinquantaine que de la vingtaine. Donc, il m'a demandé d'être cohérent et que je dois travailler avec les gens. Mais quand j'ai pris la décision de fermer la porte à un certain nombre de personnes, c'est parce que j'ai quand même pris le temps d'étudier et d'analyser des situations. J'ai étudié des comportements. C'est aussi mon travail d'étudier et d'analyser les comportements. Donc, les personnes à qui je ferme la porte, même si on ne sait pas de quoi demain est fait, je ne vais pas leur ouvrir la porte. Je le dis en toute sincérité, en toute clairvoyance à la population du Gaumont, parce que lorsque je vais devoir m'appuyer sur certaines personnes pour mener l'équipe municipale, pour mener la ville là où je vais l'emmener, je veux pouvoir me retourner et voir une équipe derrière moi et ne pas avoir un vide derrière moi. Donc c'est pour cette raison que je ferme la porte très tôt à un certain nombre de personnes parce que j'ai vu leur manière de fonctionner pendant 5 ans. Donc voilà, ça c'était une première réponse à Jean-Pierre. Concernant le vieillissement de la population, depuis très tôt, j'ai toujours défendu la silver economy. Nous, en Martinique, on a toujours un temps d'arrêt. C'est toujours après coup qu'on réagit. Depuis très tôt, déjà quand j'étais candidat en 2017 avec Karine Mousseau, quand j'étais son suppléant, nous avons fait un travail colossal sur le développement de la silver economy. Ce n'est que maintenant qu'on commence à penser au troisième âge, voire au quatrième âge. Nous, nous le pensons depuis très tôt. C'est vrai que nos aînés ont envie souvent de mourir chez eux. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, de mourir chez eux. Donc, il faut aider nos aînés à vieillir chez eux et à mourir chez eux. Et pas forcément qu'ils soient mis automatiquement dans des EHPAD et qu'ils soient au final abandonnés ou qu'ils reçoivent une visite que le dimanche. Même s'il faudra développer les EHPAD sur l'ensemble du territoire, parce que tout le monde ne peut pas rester seul dans sa maison. Il faut que des personnes soient accompagnées de manière récurrente, des fois H24, par des professionnels de santé.
Alors, quelques chiffres, Monsieur Tabar, parce qu'il se trouve que je voulais vous interroger avant que Jean-Pierre ne le fasse sur cette question du vieillissement. Il faut savoir qu'au Gros Morne, un habitant sur deux a plus de 45 ans. C'est l'avenir immédiat du Gros Morne. Il y a un autre chiffre qui donne à réfléchir. Les moins de 30 ans au Gros Morne, il y a une caractéristique, ils sont majoritaires, les garçons, chez les moins de 30 ans. En 2022, ils étaient 1462 pour 1253 filles. Ces jeunes ne représentent aujourd'hui que moins d'un habitant sur quatre. Vous êtes donc dans une commune qui, dans l'immédiat, est une commune qui n'est pas seulement vieillissante, elle a déjà basculé. Que fait-on quand on envisage d'en devenir le maire? Vous avez évoqué la construction d'EHPAD, vous avez évoqué le maintien à domicile. Est-ce que ça suffira, M. Tabar?
Ça ne suffira pas parce qu'il faudra développer le cadre de vie absolument pour les Gomornais. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont de ma génération sont très nombreuses à vivre en dehors du Gros Morne. En dehors du Gros Morne. Pourquoi? C'est par rapport au manque d'infrastructures. C'est une réalité. Et juste, je reviens sur Jean-Pierre, qui m'a dit qu'il ne faut pas critiquer. Mais Jean-Pierre, tu constateras que je fais un constat et je fais des propositions en face. C'est toujours comme ça, parce que ça ne sert à rien de venir critiquer et puis après, de ne pas faire de propositions en face. Donc, il faudra améliorer le cadre de vie, donner des infrastructures aux Gomornais pour qu'ils puissent se sentir investis, pour qu'ils retrouvent cet attachement au Gomorne. Parce qu'il y a une époque, j'ai connu une époque où le Gomorne, c'était les Trente Glorieuses. Nous avions une bibliothèque au Gomorne. Là, nous ne l'avons plus. Nous avons des infrastructures sportives qui fonctionnaient, un hall des sports qui ne coulait pas, des tribunes couvertes, des gradins. Et on avait un tissu associatif qui était très important et très actif au Gomorne. Ce n'est plus le cas. Les routes du Gomorne, les routes de quartier, ça donne pas envie, ça donne pas envie. Il faut reprendre en main cette commune. Il faut refaire les Gomornais revenir sur cette commune. Et puis il faut développer cette commune sous le plan économique. Parce qu'il faut savoir que le Gomorne est collé avec le Lamantin. Nous sommes à moins de 5 minutes de Lamantin par la route de Saint-Maurice. Très tôt, j'avais dit au meilleur sortant qu'il fallait développer cette route. Là encore, Jean-Pierre, c'est une proposition. Développer cette route et de trouver une solution pour que ce soit soit une départementale ou une nationale, mais en fait que cette route relie le Gros Morne directement au Lamantin. Parce qu'il faut savoir que le Lamantin est saturé, ça c'est certain. Le Robert est en train d'exploser, c'est saturé. Donc il reste le Gros Morne. Et ce n'est pas urbanisé pour urbaniser, mais c'est pour créer ce développement économique, culturel, associatif dont a besoin le Gros Morne. Pour faire revenir les jeunes et surtout pour faire rester les jeunes Gomornais. Parce que les Gomornais, on va les trouver partout. Vous allez les trouver à Saint-Joseph, à Sainte-Marie, au Robert, à Trinité, dans les villes qui se développent autour.
Justement, puisque nous parlons d'enfants et d'attractivité, nous avons Daniel en direct sur RCI qui veut évoquer la construction d'écoles. Daniel, vous êtes en direct, on vous écoute.
Bonjour, M. Dizer. Bonjour, M. Tabar. Bonjour, les auditeurs. Merci de m'avoir donné le micro. Monsieur Tabar, on vous a dit Daniel, mais pour bien me situer, je suis Morin. Morin, vous connaissez.
Ah oui.
Vous voyez?
Oui, tout à fait, Monsieur Morin. Bonjour, Monsieur Morin.
Je suis un électeur qui est un électeur voteur.
Oui, tout à fait, dans mon bureau de vote, d'ailleurs.
Oui, et en ce moment, je suis en train de réfléchir à qui je donnerai mon bulletin. Bon, j'ai déjà écouté une, j'ai été invité à sa présentation. Là, la première fois que je vous entends par rapport à votre candidature sur le Gaumont. Mais première question que j'avais à vous poser. Vous dites tout ce que vous dites. Depuis 2008, en temps de, du temps de Roy Girard et conseiller général, et puis le monsieur le maire, Joséphine, on m'avait invité à une réunion que c'était à la MJC. Je leur avais dit d'enlever le kilométrage de route de deux terres à Ancalbas-là. Ancalbas, comme vous n'êtes pas de cette région, c'est l'entrée de Saint-Maurice sous la route du Verbrun. De mettre cette route en route départementale. Et je vous dis, je vous donne des idées. Et j'avais évoqué la prison, l'hôpital de Mangoville-Saint. Parce qu'en cas de... c'est-à-dire, en créole, on vous dit, on vous dit courir vini.
Oui, c'est courir vini.
En courir vini, ça n'aurait pu avoir un accès à l'hôpital le plus rapidement possible. C'est une route fondamentale. Fondamentale. Ouais, il faut enlever le kilométrage de route de terre à l'entrée de Calbas, en Calbas, le manchement de l'eau. C'est une route fondamentale. Bon, deuxièmement, monsieur, la question est la première. Je vous demande, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, je vous entends parler qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais monsieur Tabar, vous avez été dans la liste de la majorité durant deux mandats.
Non, monsieur Morin, non.
Un mandat, monsieur Morin.
Un seul mandat.
Cinq ans, on va même dire 5 ans. Il n'est pas fini le mandat.
Vous n'avez pas fini, bon, je n'étais pas au courant.
Voilà.
Parce que j'étais avec vous en 2015 et je sais que vous étiez avec lui.
Oui. Non, pas du tout, monsieur Morin, pas du tout, à aucun moment.
Daniel, ne soyez pas...
C'est en 2020.
Daniel, ne soyez pas trop long, nous avons déjà des appels en attente.
C'est vrai que mon visage est très familier, monsieur Morin, vous me voyez souvent dans les bureaux de vote, donc c'est pour ça que vous avez l'impression de me voir souvent.
Oui.
Mais je n'étais pas élu.
Alors, terminez, monsieur Morin, terminez.
Bon, comme j'ai le micro, laissez-moi dire au valeur.
Oui, monsieur Morin.
Est-ce que vous, maire du Gaumont, vous allez construire l'école communale à Bagatelle.
Merci. Merci, Daniel. Restez à l'écoute de RCI. Répondez, monsieur Tabara.
Oui, monsieur Morin. Merci pour toutes tes questions, mais je préfère redire que je ne suis élu que depuis 2020. C'est vrai que je suis engagé depuis très tôt, depuis l'âge de 17 ans. Donc, on a l'impression de me voir, mais je n'ai jamais été élu, sauf en 2020. Donc, c'est pour ça qu'il a l'impression que je suis là depuis longtemps. Non.
Alors, sur le fait de faire passer cette route entre Deux-Terres et Saint-Maurice au Lamantin, dans le giron de la CTM, puisque c'est de ça s'agit, d'en faire une départementale, quelle est votre position?
Mais M. Morin, il dit qu'il n'a pas encore de candidat, mais il a posé la question alors que je donnais la réponse juste avant. Donc, M. Morin, nous sommes exactement face à cette question. Il faudra développer cette route, et je l'ai dit depuis très tôt, depuis 2020, et pour moi, ça devra être une priorité, l'une des priorités, parce que tout est priorité au Gaumont, malheureusement. Et il faudra vraiment développer cette route pour rendre le Gaumont directement accessible au Lamantien, comme il dit, signé en Couévigny, en Couscoury. Mais voilà, cette route doit être une route départementale.
Ensuite,
et il faudra négocier avec les acteurs CTM, État, pour ce faire.
Et sur la construction d'une école à Bagatelle?
Le projet de Bagatelle, c'est vraiment un serpent, c'est ce qu'on appelle un serpent de mer, qui revient à chaque fois, à chaque élection. Ce projet a été revu. Un jour, il est revu à la hausse, un jour, il est revu à la baisse. Un jour, il sera fait en une phase, un jour, il sera fait en deux phases. Ça n'a aucun sens. C'est un projet sous lequel la ville travaille depuis... deux décennies. C'était un projet qui datait de M. Anicet Turinet, mais à une époque où M. Turinet avait un grand projet pour le Gaumont. Ce projet répondait à une demande à l'époque où il a été pensé en 2025. Moi, je prends la responsabilité aujourd'hui, devant les Gaumontnais, de soumettre le vote de ce projet à la population du Gaumont. C'est un projet qui va coûter 17 millions. Mais la ville n'a financé et serait, selon son plan de financement, en mesure de le financer à hauteur de 15 millions d'euros. Moi, j'ai dit au conseil municipal, il y a deux conseils municipaux de cela, comment vous faites pour voter un projet à 15 millions d'euros parce que la préfecture a demandé de réduire le montant et qu'il reste 2 millions d'euros. J'ai dit, comment vous allez faire pour aménager? Comment vous allez faire pour aménager? Je peux vous affirmer que jusqu'à maintenant, je n'ai pas de réponse concrète à cette réponse. Donc, on fait une maison et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, c'est pour on va trouver l'argent. Alors que pour moi, un projet doit être pensé dans sa globalité. Donc, ce projet sera soumis au vote de la population. Ce sera une forme de démocratie participative où la population dira si ce projet doit avoir lieu.
Vaut le coup ou pas. Jean-Pierre, vous êtes en direct sur RCI, nous vous écoutons, allez-y. Vous voulez poser une question, je crois, sur le peuple martiniquais, si ce que j'ai.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour M. Tabar.
Bonjour voilà. Jean-Pierre.
Simple et rapide. Oui, juste pour demander à M. Tabar, est-ce que selon lui, le peuple martiniquais existe? Et lui demander également, est-ce qu'il sait qui est Georges Ravenot?
Savoir qu'il sait qui est Georges Ravenot. Merci, restez à l'écoute de RCI, Jean-Pierre.
Oui, Jean-Pierre.
Est-ce que le peuple martiniquais existe pour vous, Jonathan Tabar?
J'estime qu'il y a une population martiniquaise.
Sa question, c'est est-ce que le peuple martiniquais existe?
J'ai très bien compris la question de Jean-Pierre et nous avons déjà eu à échanger sur cette question et nous n'avons pas eu de terrain d'entente sur cette question. Mais il y a un peuple. Il y a un peuple parce qu'il faut savoir que les mots ont leur sens. Chaque mot a une définition. Un peuple, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Il faut définir ce qu'est un peuple. C'est un groupe de personnes qui a sa constitution, qui a son territoire et son espace. Je ne pense pas que la Martinique ait une constitution à l'heure où nous parlons. Ce n'est pas le cas. Donc, on a une population martiniquaise, mais cette population martiniquaise n'est pas encore peuple. Un jour, elle le sera peut-être, mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la population martiniquaise n'est pas encore peuple, parce que pour être un peuple, il faut avoir un projet commun. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Vous connaissez Georges Ravenot, a-t-il demandé?
J'ai entendu parler de Georges Ravenot, mais je suis toujours dans la transparence. Je ne vais pas pouvoir développer plus sur Georges Ravenot.
Nous avons à l'antenne Paul qui veut poser une question concernant la salle de judo et de karaté qui est fermée. Paul, vous êtes en direct sur RCI, nous vous écoutons. Paul?
Justement, oui, j'écoute.
Allez-y.
Oui. Oui, le Jujidara Club du Gaumont, il y avait des karatékas, il y avait des judokas, il y avait de la gym, il y avait tout ça qui se faisait dans ce gymnase. Et la mairie a fermé parce qu'ils ont mis sur le toit des panneaux solaires qui vendent du courant à l'EDF et le toit coule. Et actuellement, ils ont tout fermé et ça sert de dépôt à la mairie. Que pensez-vous de ça?
Merci. Merci, Paul. Restez à l'écoute de RCI. Monsieur Tabar vous répond.
Le Jujidara Club, oui, le Jujidara Club, ça fait partie de l'ensemble du projet de rénovation des infrastructures sportives que nous aurons sur la commune du Gaumont. Parce qu'il faudra tout reprendre au niveau du plateau sportif, que ce soit le hall des sports, le plateau sportif, les terrains de tennis, les terrains de basket, les terrains de hand. Et le Jujidara Club, c'est tout un espace qui doit être revu et qui doit être repensé pour les Gaumontais et créer un lieu de vie, d'attractivité pour la commune du Gaumont, juste qu'au parc, qui est en bout de chaîne, à la fraîcheur.
10h27, pardon, sur RCI. Nous, priorité aux questions, il y en a beaucoup ce matin. Nous allons prendre successivement les appels de Louis, de Marcel et de Joël. Louis, sur l'évolution de la Martinique, vous avez une question. Vous êtes en direct sur RCI.
C'est Marcel. Allô, bonjour.
Oui, allez-y, monsieur. Allez-y,
oui, c'est Marcel. Toutes les Martiniques qui ont coûté ça, Maka déjà. Martinique, je veux dire, tout le monde a coûté, que tout le monde a parlé, que le métal n'a pas fait, que le métal n'a pas fait ça. Depuis qu'on est là, chaque mouvement d'élection, c'est toujours la même chanson. Pays nous pas avancer. Mais Maka, le loca parlé des fois, c'est sur la route parfaite. Mais comme ça, pourquoi pas c'est Martinique qui faisait la route encore? La route Martinique, pas faisait la route encore. Maka pensait qu'il faut organiser les transports. Pour organiser des façons pour qu'on travaille, nous avons des problèmes. Quand on dit que c'est ça va faire, tout ça va faire, nous avons un cadre institutionnel, ça veut dire qu'on a un pacte. On ne peut pas changer de pacte là. Là où on a un pacte là, il y aura d'où, il y aura d'où, il y aura d'où. Là où on parle de mon image, la ville de Gaumont, on ne va pas connaître bien. Mais moi, si je m'attendais, moi, ça m'a pas eu tous les détails, machin. La route Gaumont, l'été, puis il m'a encore attiré, et puis un autre bout qui a passé après, c'était en bas, c'était une difficulté. Ça veut pas dire, dans le siècle, vous difficulté, même pas en 5 ans, depuis hier, à côté.
Merci, merci. Merci Louis, nous avons été interrompus. Marcel a une question concernant l'église et le stade, et ensuite Joël. Marcel.
Oui.
Allez-y Marcel, on vous écoute.
Oui, c'est juste pour confirmer ce que M. Tabar. Bonjour, excusez-moi.
Bonjour.
Et c'est juste pour confirmer ce que M. Tabar dit au début de l'émission, que l'église et le stade, c'est deux endroits qu'ils n'aiment pas voir au gros monde. Et comme ma fille est en 8, j'ai l'intention de monter au match avec le gros monde. Le stade est dégueulasse, c'est vraiment ça. C'est juste pour confirmer ce qu'il a dit.
Oui. Merci, merci Marcel. Joël a une question sur l'église également. Joël, vous êtes en direct sur RCI.
Oui, bonjour. Je vais vous poser une question.
Allez-y.
L'église du Gaumont, monsieur. Si vous êtes le maire du Gaumont, est-ce que les gens vont savoir faire l'église du Gaumont?
J'ai pas compris ta question. Répétez votre question.
Allô?
Oui, allez-y.
Qui sont l'église du Gaumont dans la fin? Parce que tout le monde, là, quand il parle, quand il parle là, personne n'a pas posé de question à l'église.
Merci, merci Joël. Nous avions déjà évoqué la question de l'église. Manifestement, vous avez commencé à écouter beaucoup trop tard. Monsieur Tabar, on va poursuivre sa question. Est-ce que vous prenez l'engagement, si vous êtes élu maire du Gaumont, que l'église soit debout à la fin de votre mandature en 2032?
Il faut dire la vérité aux Gaumontais. Il faut dire la vérité. Et je veux que tous les Gaumontais l'entendent. Et ma réponse ne plaira peut-être pas. Mais je ne vais pas faire comme tous les candidats qui se présentent pour dire qu'ils vont donner une église au Gaumontais. Couturier l'avait dit en 2014, nous sommes en 2026 bientôt, il n'y a toujours pas d'église. Donc l'église du Gaumont ne sera pas livrée en 2032. Et ça, je vous le dis en toute sincérité, il ne faut
pourquoi,
pas croire celles et ceux. L'église du Gaumont a un coût de 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. Cet argent...
Oui, mais vous parlez du projet actuel.
Oui, du projet actuel.
Il n'est pas envisageable un autre projet ailleurs.
Un autre projet ailleurs?
C'est une question.
L'église du Gaumont a été classée aux monuments historiques. Donc l'église du Gaumont ne pourra pas être démolie. Et on ne pourra rien faire avec l'église du Gaumont en tant que telle. Ça a été une bêtise de la municipalité sortante qui, en 2004...
Vous savez qu'on peut sortir du classement, M. Tabar?
Ce sera une démarche très longue, déjà. Parce que déjà, pour sortir du déclassement, pour la déclasser là, aujourd'hui, ça prendra au moins 3 à 4 ans. Donc ça veut dire que si c'est en 2026, ça veut dire qu'en 2030... l'église ne sera pas déclassée en 2030. Et s'il faut faire des travaux, il faudra compter pour un bâtiment de cette ampleur, parce que c'est une très grande église, un bâtiment de cette ampleur, il faudra compter au moins 4 à 5 années. Donc en 2032, le rêve de 2032, ce n'est pas réalisable. Et je dis aux Gaumontais que toutes les personnes qui vous diront que cette église va sortir en 2032, qui vont la livrer en 2032, vous mentent. Moi, je ne vais pas prendre cet engagement de mentir aux Gaumontais, de leur dire que je vais leur donner une église en 2032. Ça, c'est hors de question. L'église, c'est un bâtiment qui est très attachant, qui fait peine à voir, hein, de voir l'état dans le délabrement dans lequel elle se trouve. Mais, en toute sincérité, je ne prendrai pas cet engagement de donner une église en 2032 au Gaumontais. Je le dis en toute sincérité, et en toute clairvoyance et en toute transparence au Gaumontais. Je ne vais pas vous mentir.
Manifestement, cette question de l'église revient beaucoup. Nous avons Marie qui veut évoquer cette question également. Comme nous ne savons pas quel est son propos, je vous propose de l'écouter. Marie, on vous écoute. Marie, vous êtes en direct sur RCI.
Bonjour à toutes les gens qui écoutent RCI. Donc, moi, la seule chose que je vais dire, tous les gens qui appellent pour l'église, est-ce qu'il y a qu'à la messe? Est-ce qu'il y a qu'à aller la messe? Donc, comme il y a un problème sur le Gaumont et que c'est l'église, donc tout le monde, c'est l'église. Mais quand le maire, il fait des réunions, il fait tout pour pour nous, hein? Combien de personnes qui habitent au Gaumont? C'est deux personnes qui habitent au Gaumont? C'est une personne qui habite au Gaumont? Quand il fait toutes les réunions, presque tous les vendredis, c'est non, une personne, c'est deux personnes. Alors, il faut arrêter. Tous les gens qui appellent l'église, est-ce qu'il y a quand même la messe? Est-ce qu'ils connaissent le notre peuple? Est-ce qu'ils connaissent le signe de la croix? C'est ce que je voulais dire, parce que je ne suis pas contente. Ça fait un moment que ça dure. L'église, l'église, partout, c'est l'église.
Merci, Marie, merci. Nous allons en finir avec l'église, M. Tabar.
Je vais juste dire à Marie, Marie, il faut... Marie, tu as posé ta question, c'est très bien. Marie, maintenant, va dans ta cuisine, pointe un verre d'eau et respire, Marie. Marie, respire, respire. Respire, Marie.
Question de Marc-André Latournal. Si vous êtes élu, c'est un fidèle de cette émission, si vous êtes élu en 2026, quelle est votre priorité absolue pour le Gaumont?
La priorité pour moi, ce sera de redynamiser cette commune et de la repenser sérieusement. Et je vais commencer par rénover toutes les infrastructures sportives du Gaumont.
C'est ça votre priorité?
Ce sera la priorité. Pourquoi? Parce que le sport, on sait que c'est un élément qui arrive à fédérer le tissu associatif, parce qu'il n'y a pas que le sport pour le sport. C'est tout ce qu'il y a autour du sport. C'est développer cette commune économiquement déjà. Parce que quand on va rénover, ça va créer de l'emploi déjà sur le territoire. Nous allons pouvoir accueillir des compétitions sur le territoire. Nos jeunes vont pouvoir s'entraîner, les familles vont pouvoir réintégrer leur commune. Parce que, vous savez, on n'a pas d'infrastructure et les Gaumontais sont en déperdition dans tous les autres clubs autour de nous. Ça, c'est une réalité. Donc, moi, la priorité, ce sera la rénovation totale de toutes les infrastructures sportives du Gaumont.
Merci. Nous avons une question de Rodrigue concernant le bout, 10h35 sur RCI. Rodrigue, vous êtes à l'antenne.
Oui, allô? Bonjour.
Oui, on vous écoute.
Alors, la question que j'ai à poser, je ne suis pas Gaumontais,
oui.
Je précise, hein. Je ne suis pas Gaumontais, mais c'est une commune que je passe assez souvent. Et moi, ce que je déplore, j'ai constaté durant les 20 dernières années, il n'y a eu aucune évolution au Gaumont, oui. Au niveau du centre-bourg. Le centre-bourg s'est dégradé au fil des années, d'accord? Regardez un stade comme le Réveil Sportif, une équipe qui était prestigieuse. Hein? Regardez le stade. Il n'y a pas un endroit, lorsqu'on passe au Gaumont, pour vous dire qu'il y a une belle place des fêtes, un endroit pour se recueillir, pour que les gens du Gaumont puissent aller se balader le soir, n'est pas obligé de descendre à Trinité et au Robert. Moi, c'est ce que j'avais à dire et je laisse la place aux autres.
Merci. Merci, Rodrigue. Reste à l'écoute de RCI. Monsieur Tabar, oui, qu'est-ce que ça vous inspire, la remarque de Rodrigue?
Exactement dans ma philosophie. Quand je parle des rénovations des espaces sportifs du Gaumont, c'est un ensemble, comme je disais, un pôle d'attractivité, parce qu'il faudra créer dans cet espace, dans ce projet, une place des fêtes permanente et des infrastructures d'animation dans tout ce complexe, en fait. Parce qu'il faudra redynamiser cette commune, et comme il dit... Il n'est pas du Gaumont, mais il a peut-être envie de venir se promener. Au Gaumont, ce n'est pas possible le soir. Hein. Déjà, le problème de l'éclairage public dans le bourg, ça c'est encore un autre problème qu'il faudra régler très rapidement. Mais je veux quand même répondre à Louis, qui a dit qu'il n'est pas du Gaumont, mais concernant les routes. Louis, c'est parce que tu n'es pas du Gaumont que tu t'es permis cette question, et ça peut se comprendre. Mais je t'invite un jour à faire par Mont-Gauvulcin et à prendre la route de Saint-Maurice, et tu vas voir comment tu te retrouves en 5 minutes au Gaumont. En 5 minutes. Gaumont de la Montagne, 5 minutes. Et ça permettrait de développer aussi la commune.
Autre question de Marc-André Latournal. Comment concilier, et là, ça va nous permettre d'évoquer votre seconde casquette qui est celle d'élu communautaire avec une délégation dans le domaine du développement rural et de l'agriculture. Comment concilier développement économique et préservation de l'environnement dans une commune rurale comme le Gaumont?
De toutes les façons, tout peut se concilier parce qu'il y a une réglementation. On ne peut pas faire des choses en dehors de la réglementation. Donc, on pourra très bien développer parce que j'ai pas dit qu'on va, attention, on ne va pas prendre des terres agricoles pour créer des espaces urbains. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Nous allons retravailler l'existant au Gaumont. Nous allons redéfinir les choses, nous allons repenser les choses. Les espaces agricoles seront protégés, peut-être même amplifiés, mais les deux vont pouvoir être conciliés sur le territoire de la commune du Gaumont.
Monsieur Tabar, vous êtes élu délégué au développement rural et à l'agriculture au sein de Cap-Nord. Cap-Nord peut-il réellement agir? Les agriculteurs ont besoin de terre, ils ont besoin d'argent et d'intrants qui ne soient pas hors de prix. Que faire?
Est-ce que Cap-Nord peut agir? La réponse est oui, dans l'accompagnement. Et c'est ce que nous faisons avec l'ensemble des partenaires. Parce que nous travaillons avec la SAFER, la CTM, afin que les Gaumonnais puissent, et les habitants des 18 communes, parce que si je suis sur 18 communes à ce niveau, parce que là encore, nous avons mis en place l'association foncière pastorale avec l'ACODEM. L'ACODEM, c'est-à-dire nous avons mis en place un consortium qui permet aux agriculteurs ou aux possédants de terres de mettre à disposition des terres au sein de cette coopérative.
Vous pour parlez de l'ACODEM, les éleveurs.
Exactement. Okay. Exactement. Pour que les possédants et les agriculteurs qui ont des terres, qui n'utilisent pas, qui ne mobilisent pas, mettent à disposition des jeunes agriculteurs. Mais pour aussi l'ensemble de la production élevage de Martinique. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place. Cap Nord travaille en étroit lien avec les différents partenaires.
Nous allons prendre les appels de Huguette et de Philippe. Huguette, vous êtes en direct sur RCI, on vous écoute.
Bonjour Monsieur Dizer, que j'apprécie beaucoup.
Merci.
Bonjour Monsieur.
Bonjour Huguette. Bonjour Huguette.
Oui. Alors, en ce qui me concerne, je suis martiniquaise et je vais vous avouer que l'image de M. Couturier me déplaît. En tant que maire, à mes yeux, il n'est plus un référent, ni pour la Martinique, ni pour sa propre commune. À mes yeux, c'est quelqu'un qui se cherche, qui se dit indépendantiste. Peut-être qu'il a une volonté délibérée de ne pas développer la commune. En tout cas, je ne peux pas faire confiance à ce monsieur. Et son association avec le R, c'est son problème. Mais j'aurais tellement aimé aussi, durant cette période si douloureuse et difficile, l'entendre dire un peu de sécurité, calmer le jeu en Martinique. Par conséquent, je ne peux pas. Et je ne voudrais pas qu'il soit maire de cette
Huguette,
commune.
Huguette, s'il vous plaît.
C'est un mauvais référent.
Je me permets, Huguette, de vous interrompre. Notre invité ce matin, ce n'est pas M. Couturier, c'est M. Tabar. Donc, je souhaiterais que vous posiez des questions à M. Tabar. Philippe, vous avez une question concernant le budget et l'animation du bourg.
Bonjour
oui, Philippe.
Vous m'entendez bien?
Oui, très bien.
Oui, donc je suis martiniquais, je ne suis pas gourmandais, mais je m'intéresse à la vie du pays. Ma question, bon, est-ce qu'actuellement, le budget de la ville ne permet pas d'organiser, les fêtes patronales, un peu d'animation dans le bon niveau du bourg? Est-ce que c'est dû au budget ou autre? C'est tout.
Très bien. Ben écoutez, restez à l'écoute, Philippe. Monsieur Tabar va répondre à vos deux questions.
Je suis un peu perturbé par les propos d'Huguette, parce que on perçoit l'émotion de cette dame qui exprime une forme de détresse et de cri. Je veux la rassurer. S'il y a des Gaumonnaises ou si elle habite ou vote sous le Gaumont, que son cri est entendu, et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, ce qui est nécessaire avec l'ensemble des Gaumonnais pour redorer l'image de la commune du Gaumont. Et Philippe, la réponse à ta question, la fête patronale. Moi, depuis que je suis élu en 2020, j'ai fait de très nombreuses fêtes patronales. Et je vais te dire que j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce que chaque fois que je vais dans les fêtes patronales, les maires des autres communes qui m'invitent me disent « Qui t'ont réinvité nous? Qui t'ont fait la fête patronale? Qui t'ont autre qu'à faire la fête patronale? » C'est pas moi qui suis maire. « Qui t'ont autre qu'à faire la fête patronale? Gros monde. » Et je leur dis « Ça qui est fait en jour, pas paix. » C'est vrai que la municipalité actuelle a fait perdre les repères des gros mornais. On perd nos repères au gros monde. Parce qu'on déplace tout, on détruit tout et on ne reconstruit pas. Et ça, c'est dommage. Parce que la fête patronale avait l'habitude de se tenir à la période du 14 juillet. C'était ça le moment de la fête patronale du Gaumont. Et dans mon enfance, je me souviens des très grandes et très belles fêtes patronales qu'on faisait au Gaumont. Là, maintenant, c'est le 30 mai, la fête patronale. Ça coïncide avec exactement la date de la date Notre-Dame de la Visitation, la fête de la paroisse. Ben, on n'est pas capable de faire une manifestation au Gaumont aujourd'hui, mais on s'est trouvé de l'argent comme j'ai voté contre l'année dernière, pour 30 000 euros pour aller faire, pour aller au congrès des maires avec 8 agents et élus, ou comme ce sera voté très prochainement, le même nombre, avec une somme peut-être plus élevée, pour aller au congrès des maires, alors qu'il y a des priorités. Il y a des priorités. Voilà.
9h-11h, la tribune du dimanche sur RCI.
Jonathan Tabaré, notre invité, il est élu à la au conseil municipal du Gros-Morne, ainsi qu'élu communautaire à Cap-Nord. Nous passons au deuxième questionnaire, le pour ou contre, monsieur Tabaré. Là, vous aurez la possibilité d'argumenter. Êtes-vous pour ou contre la limitation du nombre de mandats successifs pour le poste de maire?
Oui, je suis pour. Parce qu'à un moment, il y a...
Pour la limitation?
Je suis pour la limitation. Parce qu'à un moment, il y a l'usure du pouvoir. Et quand on est maire, on vient pour un projet.
Vous ne craignez pas qu'on dise « Monsieur Tabar dit ça parce qu'il n'a pas encore été élu et qu'une fois élu, il voudra faire 3, 4, 5 mandats
». Non, vraiment pas. Je vais vous assurer, monsieur Dizer.
Vous êtes jeune, vous dira-t-on.
Dans 12 ans, j'aurai 50 ans, comme j'aime bien dire aussi. Ouais. Non, parce que je pense qu'à un moment, il faut laisser la place aux autres. Et lorsqu'on est maire, il faut préparer la relève. Donc, si je suis maire, ce sera 2 mandats et non 3 mandats ou 4 mandats. Ça, je prends l'engagement devant les Gros-Mornais.
Pour ou contre la diminution des effectifs municipaux pour réduire la masse salariale et dégager des marges budgétaires?
Quand on parle de diminution, il faut savoir de quel type de diminution, parce que dans la fonction publique, quand on parle de diminution, ce sont des suppressions secs, ou soit c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, sur 3 ou sur 4. C'est nous
qui savez très bien que dans beaucoup de communes, il y a de nombreux contractuels.
Les contractuels, s'ils sont là, c'est qu'ils ont une utilité. Après, il faut redéfinir l'organisation de la collectivité. Mais si les contractuels sont là, c'est qu'il y a un besoin. Et je ne suis pas pour qu'on supprime des postes à tout va, sans réfléchir, sans analyser les besoins réels. Parce que pour ce qui est du Gros-Morne, je pense qu'il y a quand même un besoin et que les agents du Gros-Morne doivent être accompagnés, mais vraiment accompagnés, et ils doivent être soutenus, parce qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus, notamment quand je vois dans certains services la détresse des agents, je me dis qu'il y a un gros travail à faire au Gros-Morne.
Pour ou contre la gratuité totale des transports scolaires pour les enfants du primaire et du secondaire? C'est une question qui dépasse le cadre du Gros-Morne.
Oui, ça dépasse le cadre du Gros-Morne, mais je suis pour qu'il y ait une participation des uns et des autres. Parce que si c'est gratuit, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui paye en quelque part. Et c'est l'impôt des contribuables qui finance d'une manière ou d'une autre. Donc moi, je suis pour qu'il y ait une participation de tout le monde.
Pour ou contre l'inéligibilité à vie pour les élus définitivement condamnés pour détournement de fonds publics dans l'exercice de leur mandat?
Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à vie? À vie, c'est la question que je me pose. Inéligibilité pour détournement de fonds, ça c'est anormal déjà. Ça c'est anormal. Donc je pense que quelqu'un qui a été condamné pour détournement de fonds, malversation ou autre, ne peut plus...
Vous êtes pour le principe de l'inéligibilité même si elle est temporaire?
Voilà, temporaire. Mais quelqu'un ne peut se représenter parce qu'il appartient à la population de choisir qui elle veut. Donc si la population décide de remettre quelqu'un qui se présente, qui a commis des méfaits, ça, il enlève la responsabilité de la population.
Mais vous estimez que c'est aux électeurs de trancher et pas à la justice?
Mais il suffit, quand on se regarde l'état du pays, tout ce qui se passe en Martinique et même en France, quand on regarde, il y a des gens qui sont condamnés, qui se représentent et qui passent. Donc ça veut dire que d'un côté, et je n'adhère pas, mais les électeurs ont une part de responsabilité dans le choix des personnes qu'ils mettent en place.
Pour ou contre le retour du cumul possible de mandat de maire avec celui de député?
Je suis pour. Je suis pour parce que moi,
la possibilité d'être maire et député, vous êtes
député,
pour?
Député, député-maire. On en a connu, ça fonctionnait très bien. On avait Annie Sétouiné qui était député-maire et ça fonctionnait très, 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 très bien. Et je peux vous assurer que dans ces heures-là, la commune du Gros-Morne en a nettement profité.
Merci.
La tribune du dimanche, Philippe Dizer sur RCI.
10h48, décidément, sur RCI. La politique, c'est aussi des coulisses. Monsieur Tabar, vous vous sentez aujourd'hui, on a bien compris. Tiens, petite question que je n'avais pas prévue. Vous assumez d'être un homme de droite, vous?
Je suis un homme de droite. Mon nom engagement politique a commencé à droite. Mais comme je dis, je suis un homme de droite, mais j'ai quand même le cœur à gauche et je suis de cette droite humaniste, sociale et solidaire.
Justement, vous vous sentez plus proche de la droite de Bruno Retailleau ou celle de l'UDR d'Éric Ciotti aujourd'hui ?
Je suis plus proche de la droite de Bruno Retailleau que j'ai rencontré il y a quelques semaines quand il était en Martinique.
Êtes-vous favorable au rapprochement observé entre la droite française et l'extrême droite ?
Je ne suis pas favorable à ce rapprochement. Je pense que la droite doit rester ce qu'elle est. Mais par contre, elle a un travail à faire pour aller récupérer ses électeurs RN qui sont en perdition.
En Martinique, vous ne feriez pas, campagne ouvertement avec un candidat RN, même si c'est la consigne nationale. Vous pourriez vous désolidariser de ça ou pas ?
Je suis quelqu'un de libre. Quand je ne suis pas d'accord, j'affirme mes positions.
Gagner les municipales est une chose, mais avoir des élus à Cap-Nord, c'est la question que j'ai posée d'ailleurs la semaine dernière également à Madame Pamphile, je vous la pose à vous aussi. Est-ce que ça reste votre objectif ? Est-ce que en 2026, victoire ou pas au municipal, il est important pour vous d'avoir des gens de votre liste à Cap-Nord ?
Pour moi, les deux vont de pair. Lorsqu'on gagne l'élection municipale, il faut qu'on ait des gens à Cap-Nord, les deux vont de pair pour défendre les intérêts du Gourmande à Cap-Nord. Parce que je peux vous assurer, vu le fonctionnement de l'équipe municipale en place, si je n'étais pas présent au bureau communautaire, ça aurait été très difficile, encore plus difficile pour le Gourmande.
Expliquez-vous.
Parce que j'ai quand même une écoute des élus qui sont au conseil communautaire et au bureau communautaire de Cap-Nord. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la division, je suis dans le rassemblement, je suis dans le partage avec mes collègues. Et il suffit de regarder la composition du bureau communautaire. Je suis l'un des rares élus de droite et je m'entends bien avec tout le monde parce que je travaille en collaboration dans l'intérêt du territoire de la commune du Gourmande et bien évidemment de Cap-Nord.
Alors justement, ça tombe très bien puisque ma prochaine question, est-ce que si vous êtes maire, vous votez de nouveau la confiance à Bruno Nestor Azéro pour sa candidature à la présidence s'il est candidat ?
Ma réponse sera claire, nette et sans appel. Ce sera oui, un grand oui pour Bruno Nestor Azéro.
Qu'est-ce qui vous rapproche de Bruno Nestor Azéro, vous l'homme de droite et lui plutôt entre les deux ?
Mais c'est un homme pragmatique. C'est un homme qui a réussi. Et il faut le dire parce que c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître depuis 2020, en fait. Et c'est quelqu'un qui a envie de faire, qui se donne les moyens de réussir. Et j'aime les personnes qui se donnent les moyens, qui ont envie de faire et qui ne sont pas dans une espèce... qui sont fermées. C'est quelqu'un d'ouvert. Et lorsqu'il a un projet, lorsqu'il a un objectif, il se donne les moyens de les atteindre. Et ça fait partie des hommes inspirants que je regarde évoluer en Martinique.
Monsieur Tabar, l'actualité en Martinique, c'est aussi le processus du Congrès visant à domicilier un pouvoir normatif en Martinique. Si vous aviez pris part à ce Congrès, est-ce que vous auriez voté, vous aussi, ce processus ?
Non, je n'aurais pas voté ce processus.
Vous êtes aligné avec Yann Monplaisir sur cette question ?
Totalement, sur cette question.
Pourquoi ?
Parce que, je vais vous dire quelque chose. Moi, je dis qu'il faut savoir être pragmatique. Les gens, quand j'entends certains élus, ils disent que ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Nous avons un certain nombre de compétences en Martinique, que ce soit en matière de transport, en matière d'eau, en matière d'ordures ménagères. Nous ne sommes pas capables de les gérer correctement. Donc, nous allons chercher plus de pouvoir pour pouvoir régler soi-disant les maux de la Martinique. Mais je vais rappeler aux Martiniquais qui nous écoutent aussi qu'il y a 15 ans, on disait que le problème de la Martinique, c'était les deux assemblées qui coexistaient, qui cohabitaient, et que la collectivité unique allait régler tous les problèmes. Mais voilà, ça fait maintenant 10 ans que la collectivité est mise en place et on nous cherche maintenant autre chose. Et quand s'ils réussissent à aller jusqu'au bout de leur ambition, de leur projet, c'est-à-dire changement de statut ou je ne sais plus trop quoi, l'autre truc là qu'ils sont en train de dire là, mais je peux vous assurer qu'à l'issue de ça, ils vont trouver encore quelque chose parce que ça n'a pas fonctionné. Parce que là, ce n'est pas un problème de statut, d'organisation, c'est un problème de personne. C'est un problème de personne. Parce que ces personnes, certaines personnes n'ont pas d'ambition réelle pour la Martinique. Si elles avaient l'ambition réelle, je pense que depuis de très nombreuses années...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Monsieur Tabar ?
Monsieur disait, mais si vous devez regarder l'état du pays, j'ai 38 ans, je n'ai pas vu mon pays progresser. Et quand on regarde, ce sont les mêmes qui sont au pouvoir depuis au moins 60 ans. Ce sont les mêmes partis qui ont géré le pays, ce sont encore les mêmes qui sont au pouvoir. Donc, à un moment, Il faut qu'on arrête de raconter des balivernes aux Martiniquais et que les élus se mettent réellement au travail et que les élus aient une réelle vision pour le territoire, pour développer la Martinique, au lieu de chercher toujours une excuse que c'est la faute de la France, que c'est la faute du statut, que c'est la faute de ceci ou de cela. À un moment, il faudra arrêter et parler franchement aux Martiniquais et dire que c'est nous qui avons un problème.
Monsieur Tabar, en prévision de 2026, de 2028, où il y aura des territoriales, vous voyez, je passe même au-dessus des municipales, votre préférence irait, alors évidemment, celles et ceux qui nous écoutent comprendront que c'est un peu de la politique fiction, mais j'ai envie d'avoir votre avis. En prévision de 2028, votre préférence irait à une alliance avec la Martinique Ensemble de Catherine Conconne, PIA de Jean-Philippe Nilor, Marcelin Adot, ou le Grand Semblé avec Daniel Marie-Saint et Francis Carole?
Bien évidemment.
Pourquoi ça vous fait rire, monsieur Tabar?
Non, parce que vous avez parlé de grand parti, mais vous n'avez pas parlé d'alliance avec la droite. Mais
je n'ai pas parlé de grand parti, monsieur Tabar.
Oui,
j'ai évoqué simplement, alors vous avez raison de me reprendre, mais je n'ai pas de problème pour me justifier. J'ai évoqué les grandes forces actuellement en présence.
Oui, tout à fait.
À l'Assemblée de Martinique. J'aurais pu rajouter, évidemment, celle conduite par Serge Letchimy, mais comme il a fait état du fait qu'il ne reviendrait pas, donc...
Ou voilà de Yann Montézir, aussi.
Voilà pourquoi
ou
je
de Philippe Petit aussi,
voilà
par exemple.
Je parlais des forces actuellement en présence, monsieur Tabar. Ouais.
Non, mais je vais vous répondre quand même, monsieur Dizer.
Mais vous avez le droit de rajouter...
Parmi les trois, les trois que vous avez cités dans un premier lieu, si je devais me joindre à quelqu'un, ce serait Catherine Conconne. Ça, c'est une réalité.
À choisir, vous iriez plutôt avec Catherine Conconne.
Bien évidemment. Le Grand Semblé, c'est hors de question. Et PIA, c'est hors de question.
Pourquoi c'est hors de question?
Parce que, je vais vous dire, ce sont des populistes. Moi, je lutte contre les populistes. Donc, on ne peut pas, vu l'état du pays, de la Martinique, je pense que parmi les trois personnes que vous avez citées, que Catherine Conconne, c'est celle qui sort du lot. Donc, les Jean-Philippe Nilor, Marcelin Adot, Grand Semblé, où on va retrouver Gilbert Couturier et d'autres personnes, Daniel Marie-Saint, ce sont des populistes. Et on ne peut plus continuer en Martinique avec des populistes. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on revienne à la raison.
La tribune du dimanche. J'aime pas.
Monsieur Tabar, nous arrivons au terme de cette émission. Le principe du j'aime pas, il n'y a pas de débat, c'est j'aime ou je n'aime pas. Voilà, vous acceptez les règles.
J'accepte, j'ai pas le choix.
Vous n'aimez pas les questions fermées, vous m'avez dit.
Oui, tout à fait.
Alors, j'aime pas, la fête patronale du Gros Morne, j'aime ou j'aime pas?
Il n'y en a pas, donc j'aime pas.
Les confitures royales, j'aime ou j'aime pas?
J'aime.
Les réseaux sociaux?
Pas trop, j'aime pas.
Les coqs qui chantent dès 4 heures du matin au Gros Morne, j'aime ou j'aime pas?
J'aime.
Écoutez Vincent le matin sur RCI.
La base, j'aime.
La cascade Sorgis.
J'aime.
La tente de la rencontre.
J'aime pas.
Les tribunes du stade Aristide Mogé.
Je déteste.
Le drapeau rouge, vert, noir.
Je n'aime pas.
Présider le conseil municipal à partir d'avril 2026.
J'aime.
Merci, monsieur Tabar, d'être venu dans cette émission. Impossible de terminer cette émission sans un mot de soutien pour la famille et les proches de Jean-Claude Asselin-Beauville. Un salut particulier pour son fils Audric, notre collègue. Tiens bon, mon grand, on pense à toi. Terminé, monsieur Tabar, il vous reste 10 secondes.
Merci à RCI Martinique de m'avoir reçu aujourd'hui. Et je tiens à dire à toutes les Gourmandaises et à tous les Gourmandais d'avoir confiance, de ne pas avoir peur. On ne doit plus détourner le regard, il faut avancer.
Merci.
Donc, faites-nous confiance, faites ensemble confiance au réveil avec audace pour enfin bâtir ce Gros Morne dont on a besoin.
Merci, monsieur Tabar. Nous nous retrouvons, quant à nous, le 9 novembre. Il n'y aura pas lundi politique, il n'y aura pas la tribune du dimanche, le dimanche prochain. C'est Coraline que vous retrouvez, qui va nous accompagner jusqu'à 13h. Merci à Olivier, ainsi qu'à Jessie, c'est ça, qui nous a accompagnés sur cette émission. Merci, bon dimanche.